101 avec Lou Schwartz et Johnny Tupac. 101 Russian Fortune, the Russian Fortune. À 21h, des fois le mercredi, sujet FM, sujet FM. La barge russe, quotidiennement, à 14h. With Johnny Tupac.
Bonjour à tous, donc pour cette barge russe numéro 286, vous m'entendez bien? 286, c'est pas 287, c'est 286, 286, ok, super. J'ai retrouvé un magazine, Les combats de l'école par le monde diplomatique, les manières de voir. Donc c'est en format magazine qui doit être voilà, c'est le dernier. Donc c'est quoi? Voilà, juin-juillet 2021. Et il est assez, bah, comme le monde diplomatique en général, il est très intéressant, très très riche. Et bien sûr que je l'ai surligné dans tous les sens. Et donc on va le faire ensemble. On va décortiquer. C'est mon point de vue, hein. Donc si vous le voulez, votre point de vue, et moi je vous le conseille, c'est d'avoir votre point de vue à vous, c'est de vous trouver le magazine quelque part, et vous le lisez, ou bien vous le feuilletez, ou bien, parce que moi je vous avoue, hein, il y a des passages que j'ai sautés, hein, pas tant que ça, mais bon, il y en a quelques-uns, ça s'est produit. Donc nous allons commencer par la préface, l'éditorial, pour un second souffle. Donc, ramener ainsi l'école à sa fonction de garderie qui permet de libérer les parents de leurs tâches éducatives le temps d'aller travailler. Peut-on trouver meilleure expression des ambitions modestes qu'inspirent les temps actuels? Je trouve ça très très chouette de commencer par l'émission par ça. Mais ramener ainsi l'école à sa fonction de garderie qui permet de libérer les parents de leurs tâches éducatives, c'est ça, Pierre, en fait, de libérer les parents de leurs tâches éducatives le temps d'aller travailler. L'école, c'est certain, ça a aussi un... C'est pas écrit, mais c'est comme ça que c'est vu, en tout cas. Mais l'école, avant toute chose, ça a un but éducatif, niveau apprendre à lire et à écrire. C'est le B.A.B.A., quoi, pour la sociale, pour communiquer... Mais après, il est aussi vrai que, bon, par exemple, en maternelle, mais même si c'est là que ça commence, enfin, on laisse les enfants... Mais bon, ouais, c'est vrai que je ne suis pas trop d'accord avec ça. Libérer les parents de leurs tâches éducatives. Mais après, on voit que, par la suite, c'est déplorable, mais c'est vrai. Les parents n'ont plus... ils savent plus ce que c'est. Je suis parent, mais... Les parents ne savent... Enfin, moi, ça me concerne pas directement, parce que je suis pas du tout comme ça, mais il y a du... Oh, mais c'est con de dire ça, je ne suis pas comme ça. Mais non, ça veut rien dire. Donc, il y a du laisser-aller, forcément. Il y a bien plus... Bon, on va continuer. On va pas s'arrêter sur la première ligne, quand même. Donc, droit égal au développement maximum que leur personnalité comporte. Alors, tous les enfants, quelles que soient leurs origines familiales, sociales, ethniques... ont un droit égal au développement maximum de leur personnalité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est juste. Ça, on est d'accord. Ok. Alors, celle du lycée oblige chaque élève à devenir stratège de sa propre scolarité. Il est en effet jeté une lumière crue sur les problèmes de logement, d'alimentation, d'équipement informatique qui frappent une partie importante de la jeunesse. Celle qui saute un repas, qui vit dans des logements étroits, insalubres, mal chauffés, celle pour qui l'égalité des chances est un vain mot. Et là, j'ai... Agir hors de l'école et dans l'école. C'est dans l'école. Il n'y a pas de suite. Suite, page combien? Il n'y a pas. Pour. Ah oui, pour réussir, nul besoin de choisir. Donc, il n'y a pas. Il y a la volonté aussi de l'élève. Hein. Le libre arbitre est très important. Mais la volonté pour réussir, pour un élève, le parent qui va lui louer un appartement en plus de sa maison ou de son appartement qu'il a chez lui, c'est peut-être un coût en plus. C'est que certains parents ne peuvent pas se permettre. Et quand certains le peuvent et que l'élève, il s'en va par exemple à, je prends l'exemple, à Paris par exemple, où c'est hors de prix, ou même ailleurs, hein, même dans une autre ville où les prix ne sont pas plus chers qu'un autre appartement, mais eh bien là, l'enfant, il faut pour ses parents qu'il travaille à l'école. Le libre arbitre est déjà très très important. Enfin, le libre arbitre, la volonté est très très importante. Alors après, on tourne la page. Alors, concurrence à tous les étages, au détriment de la réussite de tous. Alors, éclatement des filières au lycée, sélection aux portes de l'université, abaissement de l'âge d'instruction obligatoire à 3 ans. Depuis 4 ans, le gouvernement a entrepris de bouleverser le modèle éducatif français. Son objectif, instaurer, de la maternelle à la faculté, un système concurrentiel entre élèves et entre établissements, au détriment de la réussite de tous. Eh bien voilà, nous avons ici comment faire. C'est vrai que ça change tout. Hein. Là, il a tout changé le mec. Hein. Ah bah ouais, attends, t'as vu ça? Le gouvernement a entrepris de bouleverser le modèle éducatif français. Après, je sais pas s'il y a un ordre, s'il faut le faire, comment le faire. Il faut sûrement le faire, hein. Il faut le faire d'ailleurs, mais. Au détriment de la réussite de tous, parce que le système concurrentiel entre élèves et entre établissements, on comprend, mais entre élèves, c'est peut-être pas la meilleure chose. C'est comme ça que se créent des animosités et des comportements guerriers et belliqueux. Voilà, n'est-ce pas? Ensuite, il y a une lettre qui est lettre à une maîtresse d'école par les enfants de Barbiana, Mercure de France, Paris 1968. Donc là, j'ai annoté, c'est une lettre subjective qui ne... Si chacun de vous savait qu'il lui fallait à tout prix faire réussir tous ses élèves dans toutes les matières, ça, elle parle aux enseignants, il faudrait bien qu'ils se creusent les méninges pour trouver le moyen de les faire passer. Donc il faudrait une nouvelle méthode d'enseignement. Donc je ne vous lis pas tout, hein, parce que c'est une lettre assez longue. Et donc là, moi, j'avais annoté, on va y revenir plus tard à la fin, en conclusion, que c'est une lettre assez subjective, qui ne prenait que son cas à partie, donc bien sûr, subjective. Hein. Et il y a ça, ça remonte à plus de 50 ans. Voilà, on va revenir là-dessus plus tard. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai surligné? Pourquoi pas souligné? Alors là, c'est surligné. Alors, c'est dans le chapitre, vous avez dit modèle suédois? Alors, je ne sais pas ce que c'est, le modèle suédois. Il doit faire froid là-bas. Donc, relation client-prestataire. La concurrence du privé influence fortement le système public. Oui, c'est sûr que là, c'est clair parce que la relation entre l'élève et le professeur devient celle d'un client et d'un prestataire. Après, je pense que... Ouais, je l'ai peut-être noté, mais dans le public... Il y a quand même du laisser-aller, quoi. Les mecs, ils ont pas la niaque. Là, mes élèves sont dans le public. J'ai pas l'impression qu'ils aient tous la niaque, quoi. Les instits, les profs, les ATSEM, les... Les professeurs sont soumis aux règles du marché de l'emploi, ce qui aggrave les inégalités entre les établissements. Les meilleurs cherchent à être embauchés là où les élèves ont les meilleures notes, forcément. Parce que forcément, quand tu donnes un cours et que le cours est bien appris, bien reçu, bien compris, c'est plus facile que dans un autre établissement où le cours n'est pas du tout... où les enfants, il y a par rapport à l'éducation, là on peut remettre en cause les parents qui laissent leurs enfants... qui laissent leurs enfants à l'école, en fait, de faire leurs tâches éducatives à eux. leur tâche parentale. C'est pas à l'école de faire ça. Eh bien, si pour ces élèves-là qui sont perdus, en fait, qui n'ont pas de modèle parental, et là, ils sont perdus dans l'école, et on leur dit d'apprendre en plus qu'ils doivent apprendre à vivre, et en plus, ils doivent apprendre à vivre de leur propre arbitre, et en plus, on leur donne à apprendre que Émile Zola est mort en... J'en sais rien, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, parce qu'il y en a sûrement qui arrivent, mais bon. Donc, oui, dans le public, le personnel n'a pas la niaque, ça, je l'ai dit. Alors, ensuite, donc, dans ce chapitre, à la crèche, les super bébés et les autres. Alors, les neurosciences mettent en exergue les capacités du cerveau du très jeune enfant, la course à la précocité. Alors, ça me fait bien marrer, je veux dire, parce qu'en tant que parent, j'entends d'autres parents... « Ah ouais, moi, mon enfant, il est super intelligent, il est précoce. Ah ouais, je suis sûr que c'est un mec super intelligent. Ouais, bah ouais, ouais, super. » Et l'autre parent, je veux dire, il en est... Alors, il se dit... Ah, ça y est, c'est là qu'il y a le caractère belliqueux qui se met en place. « Moi, je suis plus fort que toi, tu vois ?»« Ouais, moi, je suis un meilleur parent que toi parce que mon enfant, il est intelligent, donc je suis meilleur que toi. » Alors, le mec, peut-être qu'en face, il va dire « Mais non. » Moi, mon enfant, c'est mon enfant. Toi, il est bête et c'est le mien, en fait, qui est super intelligent. Et en fait, à la fin du compte, à la fin du délire, tu vois que les deux enfants sont normaux, quoi. Et c'est les parents qui sont débiles. Ouais, j'exagère, hein, mais on est un peu obligé de parler comme ça, je vous l'ai déjà dit à la radio, pour faire comprendre les choses, hein. Bon, alors, neurosciences, capacité du cerveau... Alors, ensuite... Et qu'importe les avertissements des professionnels sur les dangers d'une surstimulation visant à façonner de super bébés, quitte à laisser les retardataires sur le carreau. Alors la surstimulation, c'est pas... Ben moi, quand j'ai lu ça, je pensais aux jeux vidéo et tout, parce que les mecs qui font ça aussi, peut-être que... Il y a tous les facteurs sont à prendre en compte, hein. Ouais, mais comme il est super intelligent, il va pouvoir jouer avec ma tablette. Ouais. Et puis avec la tablette, il va appuyer sur ce bouton, et tu vas voir, il y arrivera mieux que le tien. Et là, avec ça, il pourra aller à Harvard. Ah, ouais. Alors, on peut penser comme ça, ou alors on peut aussi ne pas qu'il ait accès à la tablette. Et moi, j'ai plus de place à la maison pour ranger les livres pour ma fille. Et ben, j'en suis très heureux. Bon, c'est des façons de penser, c'est des façons de voir, des façons de faire, des façons comme on peut, quoi. Et être des dangers d'une surstimulation visant à façonner de super bébés, quitte à laisser les retardataires sur le carreau. Sauf que dans les écoles publiques, les retardataires, c'est à leur niveau que toute la classe doit se mettre, afin que tout le monde puisse suivre. Alors là, dans ce cas, c'est ceux qui ont le plus de facilité, parce que bon, qui ont le plus de facilité par rapport à l'éducation qu'ils reçoivent à côté de l'école. Eh bien, ceux-là, ils sont dénués. Ils sont... ok, on s'occupe pas de toi, on va s'occuper de celui qui... Bon, ok, c'est noble, c'est bien de penser comme ça, mais faut aussi s'occuper de celui qui a plus de facilité. Parce que s'il y en a qu'un qui progresse dans la classe, ça va pas. Ben non, il va... Bon, allez. Donc ensuite, dans le chapitre « Choc numérique par temps de pandémie ». Alors, pour permettre la continuité pédagogique, il aurait d'abord fallu que chacun dispose d'une connexion Internet et d'un ordinateur récent. Ah ouais, moi, ça, l'année dernière, dans une autre école, qui était privée, celle-ci, il disait... en fait, quand il y a eu la première pandémie, quoi, tout le monde restait chez soi... nous, on avait tout ce qu'il fallait. On n'avait pas d'imprimante. Ah, attends, il a fallu aller acheter une imprimante au dernier moment. C'était la dernière du magasin. Fallait tout, quoi. Et sauf qu'on n'a pas forcément tout chez nous. Et je pense qu'il y en a qui est encore plus démunis que nous. Il y en a qui... Parce que vous savez, après, on a appris qu'il y en a qui n'avaient pas Internet, pas d'ordinateur. Ils n'avaient rien. Dégradation des apprentissages. That's all right. Donc... c'est vrai que c'est... Enfin bon, après, là, c'est la faute à personne. C'est pas de leur faute. C'est... Donc, classe populaire au piquet. Alors, à coup de règles et de bonnets d'âne, on apprenait jadis aux élèves bien plus qu'à lire. L'école y disciplinait les corps et brisait les ambitions immodérées. Fort heureusement, ces méthodes brutales sont passées de mode. Mais la violence ne perdure-t-elle pas sous d'autres formes ? pour y répondre, un récit décrit sur 4 générations l'expérience douloureuse des mauvais élèves. Mais avant, nous allons écouter un morceau de musique. Un morceau de musique. Un morceau de musique. Oui, non, c'est bon. Un morceau de musique, yes, on va s'écouter. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ouais, ben on va s'écouter un petit. Ah, il est pas long, il dure 1 minute 20, je crois. C'est un home recording par Marc Fossum. Alors, je reprends où j'en étais, à peu près. Hop. Bon, en fait, il n'y a pas de génération. Hein. J'ai rien pris. Il y avait des trucs qui n'étaient pas. Qui avaient, en fait, je trouvais pas d'alliance directe avec mes pensées, donc j'ai sauté des chapitres. Donc, la fin des cancres, hein, un nouveau chapitre. Alors, là, c'est alors que les ratés de la massification scolaire se multiplient, un mot d'ordre fait flore dans l'éducation nationale : la bienveillance. Que les enseignants sont invités à témoigner envers leurs pupilles. Cette vulgate psychologique masque un manque d'ambition pour les classes populaires. À défaut de les faire réussir, l'institution se contente de les encourager à persévérer. Donc là, c'est aussi de les encourager à persévérer, sans plus que ça, il faut que tu persévères, hein, t'as de l'avenir est devant toi, ouais. Donc ça c'est aussi, j'ai tout de suite mis en parallèle la continuité de la crise sociale économique que nous traversons, que le monde traverse. Donc là il y a aussi, par ces mots qui peuvent être de livrés à certains élèves, un conditionnement. Le préconditionnement, le début du conditionnement des classes sociales. Bon, il faut que tu persévères, mais bon, tu sais, celui-là, tu travailles, tu ne pourras pas forcément y arriver tout de suite, mais il faut que tu persévères. Donc là, le mec, il ne conditionne pas. Mais après, les conditions, elles se mettent en application par rapport aussi à l'éducation parentale. Tout ça est plus ou moins lié. Hein, donc, cette conception badigeonne l'échec scolaire de considération morale pour mieux le faire accepter comme inéluctable. Voilà, bah c'est un peu ce que je viens de dire. Hein. Bon, allez, après. Alors, comment combattre? Ah ouais, alors là, j'ai écrit tout un petit truc, là. Dans un petit coin qui était tout blanc. Alors, c'est dans... comment papa m'a fait entrer à Harvard? Ah, ça, par exemple, je ne l'ai pas lu. Ouais, c'était pas sans trop de valeur. Point à mes yeux, quoi. Donc, comment combattre les inégalités culturelles qui... Alors ça, c'est moi qui l'écris. Hein. Comment combattre les inégalités culturelles qui existent entre les différentes classes sociales? Si les parents travaillent la journée dans des emplois chronophages, en revenant at home, ils descendent une bière et regardent Netflix. Sans stéréotyper. Hein. C'est un exemple. Ils peuvent aussi... Moi, ça m'arrive, hein, des fois. Ils peuvent aussi manger des cahuètes. Ou des cacahuètes, mais caca, ouais, c'est donc des cahuètes, ça passe mieux aussi. Mais c'est pire pour les technocrates qui, eux, regardent Canal+ avec leurs enfants un soir par semaine, contre une semaine passée, à les éviter en partant le matin très tôt et le soir en revenant très tard. Comme ça, ils sont pas levés quand avant d'aller au travail et ils sont couchés quand tu reviens. Donc ça, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Donc, il est... Ah oui, mais je travaille. Non. Tu peux travailler... enfin... c'est des excuses, bidon, tout ça, je vous l'assure. Donc, il est peu pensable qu'un fonctionnaire de l'éducation publique ait suffisamment de temps. Il est peu pensable qu'un fonctionnaire de l'éducation publique ait suffisamment de temps pour se pencher sérieusement sur l'avenir de chacun de ses élèves. Mais est-ce qu'il en a envie ? C'est pas leur boulot non plus. Mais peut-être. C'est pas leur boulot, mais un petit peu quand même, quoi. Enfin, je sais pas, je suis pas un site, donc. Donc, de leur libre arbitre, c'est de leur libre arbitre que leur avenir va se dessiner, en fait. C'est pas grâce à l'instit, hein. Ou autre chose. C'est grâce aux parents, hein. C'est le modèle parental est très très important, hein. Donc là, il y a un outil, un petit, c'est bon, un petit quoi, là, allez, oh, qu'est-ce que t'es relou, là, un petit, ça veut dire quoi, un petit café, ben, n'importe quoi. Non, on se calme, moi, je t'ai rien fait, hein, je t'ai pas fait de mal, quand même. Bon, alors, au-delà, alors, ça, oui, bon, un petit quoi, mais un petit carré, là, dans une feuille, crétin digitaux, tiens, crétin. Et qui, alors là, c'était super, c'est par Thibaut Henneton, avec qui je suis en relation. Oui, bah oui, c'est super. Pour les articles du Monde Diplomatique. Ah ouais. Ah, mais j'étais content, ouais, voir que lui aussi, il écrit des articles. Bon, alors. Et donc, bah, je vais vous lire la deuxième partie, en fait, une partie en tout cas. Bon. Alors, au-delà de la seule variable quantitative du temps passé devant l'écran, il importe de réfléchir à ce que l'on fait avec lui comme à la qualité du temps passé loin de lui. Alors, on relit. Au-delà de la seule variable quantitative du temps passé devant l'écran, oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est toute la première partie, il dit l'horreur des écrans, en fait, hein, en gros. Donc, il importe de réfléchir à ce que l'on fait avec lui, avec l'enfant, comme à la qualité du temps passé loin de lui. Les adultes désactivent-ils les notifications de leur smartphone quand ils s'occupent de leur progéniture ? On parle dans ce cas de technoférence, mélange de technologie et d'interférence, un néologisme de plus pour nommer l'un des visages sans âge de la pollution numérique. Eh bien, moi, je peux dire que dans notre couple, moi, je n'ai pas de téléphone portable, comme je vous ai dit, mais les notifications, non, ne sont pas désactivées. Et les technoférences, je vois exactement ce que c'est. C'est-à-dire que, bon, on mange, par exemple, on est à table. Ah, tiens, j'ai vendu un truc où quelqu'un veut m'acheter un truc sur Vinted. Et hop, c'est parti. Donc on parlait, je sais pas, du beau temps, ou de la pluie, ou du petit lapin qui court dans le jardin. Eh ben non. Eh ben non, j'ai vendu un pull. Le rose. Wouh. Donc ok, on s'en fout en fait, hein, complètement. Mais alors là, vraiment, c'est chouette de lire des trucs comme ça. Mais ça changera rien, hein, parce que bon, ça va occuper le temps de s'occuper, de parler du jardin, de la pluie, du beau temps et du lapin qui court, alors que de s'occuper d'envoyer, tu vois, on a un truc à faire, faut penser, il faut hiérarchiser le truc. Ah ouais, donc ce pull, donc déjà faut que je le retrouve, après faut que je le plie, faut que je le repasse, tatati, que je le mette dans une boîte, que je forme mon petit Playmobil, tatati. Ok, bon ben voilà, c'est ça aussi, peut-être aussi qui est à prendre en compte. C'est le fait d'avoir quelque chose à faire, quoi. Un but, un objectif, comme je disais dans la barge russe numéro 285, qui était absolument génial. Je reviens pas encore, hein, elle était vraiment cool. Donc, et maintenant, pour terminer, faut-il avoir peur des neurosciences ? Alors, c'est au terme d'un combat séculaire contre le fixisme de la notion de nature humaine que celles-ci ont réussi à imposer le principe du relativisme culturel. Or, C'est ce dernier que De Haene entend restreindre, en contestant que le cerveau soit un organe tellement flexible et malléable qu'il ne contraint en rien l'étendue des activités humaines. Non point pour un retour à quelques déterminismes organiques, mais pour avancer la thèse du recyclage neuronal, selon laquelle notre cerveau s'adapte à son environnement culturel, non pas en absorbant aveuglément tout ce qu'on lui présente dans d'hypothétiques circuits vierges, mais en reconvertissant à d'autres usages les prédispositions cérébrales déjà présentes. Comme toute thèse scientifique, celle-ci offre au débat critique, compte tenu de sa considérable portée théorique. Alors, la sociologie explore depuis des décennies les déterminismes sociaux et familiaux de l'échec scolaire. Et qu'est-ce qu'elle a changé ? Que dalle ! Dès lors que l'origine des difficultés se trouve renvoyée en dehors de l'école, cette littérature a pu alimenter un certain défaitisme pédagogique. Ne gagnerait-elle pas à prendre en considération le regard porté par De Haene sur l'impact propre des apprentissages scolaires qui récuse toute perspective fataliste dans son domaine? Alors, tu vois, ça, c'est des trucs... Je me rappelle De Haene, j'avais même pas lu tellement c'était prise de tête. Je comprenais rien. Bon, après... Bah toujours, alors, ça c'est en fait c'est parfait, les mecs ils essaient de réfléchir à en utilisant des mots que personne comprend, et puis voilà, alors anticonstitutionnellement à la cime de l'arbre, voilà, c'est comme ça que nous allons résorber le mal qui s'étend sur l'éducation nationale, à la prochaine. Ouais, bah donc bah c'est je veux dire c'est là je me moque, c'est pas du tout gentil, je critique, mais c'est pas nous qui pouvons faire quelque chose, enfin on peut proposer, on se rend pas compte de la du changement des choses. Avec Schwartz, avec Helmut, on propose vraiment un changement, on propose parce que c'est un changement qui est facile, c'est chacun qui doit réfléchir, qui doit se poser des questions, qui doit faire une révolution intérieure, c'est ça. Après, là, il n'y a pas besoin de l'État, il n'y a besoin de rien, rien du tout. Il y a juste besoin de se poser des questions, de se remettre en cause sur certains événements. Donc, là, parce que l'instinct, l'écoute de son instinct, ça ne peut pas être enseigné. Non, c'est en se posant des questions, en se remettant en cause. Donc, d'où le sabotage de l'éducation par l'État et les grandes familles royales capables de prendre les aristocrates pour des ploucs afin de continuer la crise sociale et financière. Voilà, voilà l'éducation, le combat entre les trucs privés, c'est eux, laissez-nous les meilleurs et tout. C'est comme aux États-Unis en fait, hein. C'est du libéralisme. Et là maintenant en France, ça devient comme aux États-Unis. Le conditionnement des classes sociales débute à l'école. Nous avons tous été témoins ou victimes de faits commis à l'école. Ça commence à l'école et ça ne s'arrête jamais. Comme cette lettre de 1968, dont je vous parlais précédemment, n'est-ce pas, lorsque je tournais les pages du magazine. J'ai trouvé cette lettre en hors contexte total, où des lettres vraiment du présent auraient eu plus de valeur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facile que d'ignorer une lettre ? Hein, parce que ça n'a rien changé cette lettre de 68, hein. C'est toujours pareil, hein. Donc c'est ça aussi peut-être, c'est pour ça qu'ils l'ont mis, ouais. Donc il faut plutôt mettre la tête du destinataire, lui mettre la tête dedans, quoi, la tête dans les horreurs entre guillemets que...
La barge russe, tous les jours, à 14h, sur Jet FM, avec Johnny Tiefbeck et Helmut Schwartz.